Super. Eh ben dis donc, c'est bien ça. Super, ça en fait, la liste est longue. Mais je veux vous dire ce matin, les miracles ne sont pas d'une si grande valeur. Les miracles ne sont pas d'une si grande valeur comparés à la connaissance de Jésus-Christ. Les miracles, ils ont toujours fasciné les foules. Voir quelqu'un faire quelque chose d'impressionnant, d'extraordinaire, ça pousse à l'admiration. Et ça donne envie d'en voir davantage, d'en voir plus. Quand j'étais enfant, j'étais impressionné par les tours qu'était capable de faire un certain David Copperfield, pour ceux qui l'ont connu. Il faisait des émissions à la télé, c'était un prédigitateur. Et donc il faisait des grands numéros, toujours plus grands les uns que les autres. Et puis je me rappelle, toutes les semaines, à la télévision, j'étais dans l'attente de regarder quel est le nouveau tour que David Copperfield allait faire. Jusqu'au jour où j'ai appris qu'en fait c'était un illusionniste, et que pour chaque tour qu'il faisait, il y avait un truc. Quel imposteur! Les miracles ont toujours fasciné. C'était vrai aujourd'hui, c'est vrai aujourd'hui, et c'était vrai il y a plus de 2000 ans. Les foules étaient dans l'admiration devant les miracles que Jésus faisait. Dans l'admiration. À tel point qu'elle le poursuivait. Littéralement, elle le poursuivait. Mais bien qu'elle cherchait à voir des prodiges que Jésus était capable d'accomplir, elle ne comprenait pas le véritable sens de ces miracles. Et j'aimerais qu'ensemble on puisse prendre un passage dans la Bible. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, on va lire pas mal, mais vraiment je vous invite à ouvrir vos oreilles, à ouvrir vos yeux, on va afficher le texte. Je ne sais pas si tu peux afficher, il y a un PowerPoint, s'il te plaît, Elsa, qui est déjà ouvert normalement. Voilà, pour ceux qui n'ont pas leur Bible, vous pourrez suivre, super, là-haut. Jésus enseigne les foules, Jésus guérit les malades, il vient de faire un miracle extraordinaire, il a nourri des milliers de personnes. Les foules suivaient Jésus, ils sont arrivés à une heure tardive de la journée où il n'y avait rien à manger, les gens avaient faim, les disciples sont venus voir Jésus en disant « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ils ont dit à Jésus « on a juste un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons et vous connaissez peut-être l'histoire. » Dieu a fait un miracle, il a multiplié les pains et les poissons et il a nourri, nous dit la Bible, plus de 5000 hommes. Donc ça inclut leur famille, c'était un miracle extraordinaire. Et les foules du coup étaient impressionnées, ils voulaient saisir Jésus pour le faire roi et donc Jésus fuit quelque part, il s'en va. Et le lendemain matin, les foules le cherchent. Et elles remuent ciel et terre pour le trouver, elles veulent le trouver. Lisons ensemble. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque, commence leur enquête. Et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que le disciple était parti seul. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Vous voyez, ils cherchent Jésus. Et ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et ils lui dirent, « Rabbi, comment es-tu venu ici ?» Jésus répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc il demande un miracle et Jésus répond, nos pères ont mangé la manne. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Il disait « Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père sinon celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. » Il insiste. « Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux et disaient « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Cette parole est dure. Qui peut l'entendre ? Qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était celui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. On va prier ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes enseignements, Jésus. Je te prie ce matin de nous parler. Nous sommes là, nous avons nos oreilles ouvertes et on veut t'entendre ce matin, Seigneur. Si tu es vivant, si tu existes, manifeste-toi à nous, manifeste-toi à mon cœur, manifeste-toi à nos pensées. On veut te rencontrer, Seigneur. Aide-nous à saisir la valeur de ton message, la beauté de ton message, l'importance de ton message. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'ils ont vu des miracles qui leur prouvent qu'il est l'envoyé de Dieu. Mais c'est pas ce qui les préoccupe le plus, en fait. Ce qui les préoccupe le plus, c'est la satisfaction de leurs besoins naturels. Ils cherchent à être nourris et rassasiés. Ils cherchent le contentement dans l'instant présent sans se soucier de leur avenir. Ils cherchent leur intérêt d'abord, ils pensent à eux d'abord. Ils voient les miracles, s'attendent à en voir davantage, mais ils ne cherchent pas à voir de qui les miracles rendent témoignage. Et pour être honnête, l'homme n'a pas changé depuis. Aujourd'hui encore, il cherche d'abord à satisfaire ses besoins naturels. Et si Dieu pouvait l'aider là-dedans, ça lui suffirait. Une petite enveloppe à la fin du mois avec quelques billets pour les fins de mois difficiles, ça me va. Une bonne note au prochain examen parce que j'ai pas trop travaillé, ça me va aussi. Une augmentation au travail, ça serait super, Seigneur. Et pour être honnête, c'est comme ça. Mais si Dieu lui présente un sauveur, alors là, il n'en veut pas. Son orgueil est tel qu'il n'accepte pas qu'il en a besoin. Il y a la foule qui vient voir Jésus et qui l'interpelle. Rabbi, quand es-tu venu ici ? Et Jésus lui répond, vous me cherchez, non parce que vous avez compris le sens de mes miracles, mais parce que vous voulez manger et parce que vous voulez être rassasié. Et il les met en garde. Au verset 27, il leur dit, travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui persiste pour la vie éternelle. Jésus, à ce moment-là, leur parle d'une nourriture qui ne périt pas et qui dure jusque dans l'éternité. Il leur parle du Fils. Il se présente à eux tel qu'il est, celui que Dieu le Père a envoyé pour les sauver. Les super-héros que nous avons inventés, les Spider-Man, les Batman, les Iron Man, les Ant-Man, je ne sais pas si vous avez vu, c'est tous des man, beaucoup, viennent avec leur super-pouvoir sauver d'un accident imminent ou de l'attaque d'un super-méchant. Mais ici, il est question d'un autre type de sauveur, d'un sauveur qui veut vous donner une vie éternelle, une vie nourrie, une vie comblée à tel point que tous vos besoins naturels deviennent secondaires, passent au second plan. Mais le cœur naturel de l'homme n'est jamais assouvi par les choses de la terre. Sa convoitise est insatiable. Et s'il obtient ce qu'il désire, cela excite en lui le besoin d'avoir davantage, d'avoir toujours plus. Il a toujours faim et soif. Consciemment ou inconsciemment, il cherche à combler un vide qu'il ne comprend pas. Et ce vide, c'est la relation qu'il a perdue avec son Créateur. C'est le sens de sa vie, celui pour lequel il a été créé. Alors il essaye de combler ce vide. Parfois, il évacue même la question, en essayant de remplir son temps des plaisirs de la vie. Mais il y a toujours des moments dans la vie où cette question revient. Et Jésus nous dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » En donnant la vie, le pain de Dieu rend celui qui croit capable de jouir des choses de Dieu, de son royaume, le pardon, la paix, force de surmonter les épreuves de la vie, la joie du Seigneur, le baptême du Saint-Esprit et plein d'autres choses. Elles deviennent la nourriture de son âme, en sorte qu'il n'a plus faim ni soif des choses du monde. Le vide est comblé. L'homme retrouve une relation avec Dieu, son Créateur. Alors les Juifs demandent à Dieu ce qu'ils doivent faire pour cela. Et Jésus leur répond au verset 29. Il leur dit ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ce que Dieu attend ici, c'est une attitude de foi. C'est que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, envoyé du ciel sur la terre pour nous sauver. Est-ce que Dadou est là ? Tu peux aller chercher Ézéchiel ? Il est là, super. Vous pouvez venir ? 2 minutes. Super. Vous pouvez les applaudir, les encourager. Voilà, est-ce que vous pouvez vous mettre ici ? Super. Donc là, on a Dieu le Père et on a son Fils. Et il aime son Fils. Il aime son Fils. N'est-ce pas, David ? J'aimerais un autre volontaire. Un volontaire au hasard ou un volontaire désigné ? Julien. Tu t'en doutais un peu ? C'était pas prémédité. Voilà, vous avez compris. Dieu est un Dieu saint et bon. C'est aussi un Dieu de justice. Tu peux aller avec eux. Pardon. Qui a le mal en horreur. Et quand on commet des fautes, l'homme, il est séparé de Dieu. Peu importe ce qu'on ait fait, peu importe à quelle échelle, nos fautes nous séparent de Dieu. Nous sommes condamnés par le jugement de Dieu et donc nous sommes séparés de lui. Parce que Dieu est un Dieu de justice, Dieu est un Dieu saint. Et il n'y a plus de possibilité pour l'homme de retrouver une relation avec Dieu. Quand bien même il pourrait faire tout le bien possible, imaginable, donner toute sa vie, employer toute sa vie à faire le bien, cela ne suffirait pas. Parce que l'homme, dans sa nature, est pécheur. Parce que l'homme, dans sa nature, est mauvais. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu ». Il n'y a rien qu'on puisse faire pour acheter ça. Rien du tout. Et c'est pourquoi le plan de Dieu, c'était d'envoyer son fils, donc il se sépare de son fils, pour que son fils vienne ici. Hop, tu fais une croix. Voilà. Mourir à la place de Julien. Prendre la condamnation des fautes qu'il a pu commettre à sa place. Prendre le jugement de Dieu à sa place. C'est pour cela qu'il a été crucifié. C'est bien. C'est pour ça qu'il a été mis à mort, pour que nous n'ayons pas à subir la même sentence dans la présence de Dieu. Et grâce à ce sacrifice, Julien, il est capable de revenir dans la présence de Dieu, d'avoir une relation avec lui. Merci, on peut les applaudir. Et ceux qui acceptent ça, ceux qui croient en ça, ceux qui reconnaissent que Jésus est l'envoyé de Dieu sur terre, que Jésus est venu pour donner sa vie pour chacun, pour soi, celui qui croit ça, il est justifié. La Bible nous dit qu'il est déclaré juste devant Dieu. Peu importe les fautes qu'il a commises avant, peu importe les fautes qu'il commettra demain, il est justifié. Et il peut rencontrer son Créateur à nouveau. Il peut lui parler. Il peut faire sa connaissance. Il peut vivre avec lui. La condamnation qu'il méritait a été prise par Jésus. Parce qu'il ne peut y avoir deux personnes condamnées pour le même crime. Et c'est ce que Jésus commençait d'annoncer aux Juifs qui le suivaient. Au verset 38, il nous est dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, Dieu le Père. Or voici la volonté de celui qui m'a envoyé, voici la volonté de Papa, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et ces paroles de Jésus révèlent une grande différence avec toutes les autres religions qu'on peut connaître, où il faut faire des œuvres, où il faut travailler pour avoir une vie sainte, pour espérer obtenir un accès à Dieu. Ici, c'est Dieu qui vient vers vous, qui donne son Fils en rançon pour payer votre condamnation et ainsi vous permettre de vivre avec lui pour l'éternité. 3 jours après sa mort, 3 jours après sa crucifixion, Jésus est ressuscité. La Bible nous dit qu'il a été victorieux, qu'il a vaincu la mort. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et par sa victoire, il nous donne la vie éternelle. Alors j'aimerais à nouveau essayer d'illustrer ce que Jésus a fait, bien que l'illustration que je vais prendre sera loin d'être parfaite. Il y a l'image de ce que Jésus a fait, elle peut quand même nous aider à comprendre. Jerry Collins était un joueur de rugby à 15, néo-zélandais, des All Blacks. Et un soir, ils étaient à une soirée, vers Béziers je crois, et ils rentraient sur l'autoroute A9, non loin d'ici, avec son épouse et leur fille de 4 ans assise à l'arrière du véhicule. Quand soudain, après que son épouse se soit assoupie au volant, il percute un bus de plein fouet. Et le couple meurt sur le coup. Mais pas leur petite fille de 4 ans, Ayla. L'enquête menée par la police a révélé que Jerry Collins, dès qu'il s'est rendu compte que sa compagne avait perdu le contrôle du véhicule et que l'accident arrivait, s'est jeté sur le siège arrière pour enlacer sa petite fille et ainsi la protéger du choc violent avec son corps. Au moment de l'impact, c'est le corps du rugbyman qui a encaissé l'impact du choc et qui a ainsi sauvé sa petite fille d'une mort certaine. Son cousin a salué un comportement héroïque lors de ses obsèques. Et il a déclaré « Tu as pris ton bébé dans les bras, tu l'as protégé de tout ton corps et lui as donné une chance de pouvoir se battre pour survivre. Voilà le genre d'homme et de joueur que tu étais. » C'est beau. Cet enfant assis à l'arrière du véhicule, c'est chacun d'entre vous. C'est chacun d'entre nous. Et devant la sainteté de Dieu, et à cause de notre péché, à cause de nos fautes, nous sommes condamnés à être séparés de lui et à mourir. Et ça, c'est l'accident qui est imminent. On ne pourra pas l'éviter. On aura tous un jour à y faire face. Ça peut être dans des années, ça peut être demain. Et ça, malheureusement, l'actualité est toujours là pour nous le rappeler. Le rugbyman qui enlace son enfant et qui donne sa vie pour lui, c'est l'image de Jésus, qui est venu offrir son corps pour mourir à notre place, en prenant sur lui tout notre péché, toutes nos fautes, tout ce qui a empêché que nous puissions nous approcher à nouveau de Dieu. C'est Jésus qui vient, qui nous enlace et qui encaisse le choc, qui encaisse ce que nous méritions, cet accident certain. C'est lui qui nous donne une vie nouvelle, une vie éternelle. Amen. Dans ce passage, Jésus amène ses auditeurs à se positionner, à faire un choix. Et plusieurs ne vont pas comprendre. Si on lit le verset 60, après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Qui peut l'écouter ?» Et ils vont commencer à murmurer. Et ce que je vois ici, ce que j'ai vu ici, c'est qu'on peut suivre Jésus. On peut admirer ses paroles, être impressionné par ses miracles, sans pour autant croire en lui avec une vraie foi, sans accepter la seule vérité qui permet d'obtenir la vie éternelle. C'est possible d'accepter Jésus qui enseigne, c'est possible d'accepter un Jésus qui nourrit les foules, qui fait des miracles, un Jésus qui pourrait être un modèle à suivre, tellement il était super. Mais dès que son enseignement révèle qui nous sommes, dès que son enseignement dit que notre état d'homme pécheur, dès qu'il montre que la conséquence de nos fautes, c'est la mort, qu'on peut revivre si on accepte que Jésus soit allé à la croix mourir à notre place, dès que son enseignement révèle ces choses, pour certains, c'est une parole dure. Alors ils méprisent la grâce. Ils ne peuvent l'admettre tel que Dieu la présente. Et dans ce passage, à cet instant, certains de ses disciples se sont retirés, sont partis. Car si pour un moment ils avaient choisi Jésus comme maître, ils ne voulaient pas de lui comme un sauveur. Puis Jésus, après, s'est tourné vers les 12 et il leur a posé la question. « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et on peut lire cette réponse de Pierre au verset 68. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Waouh ! Et j'ai envie de vous dire ce matin, Jésus vous pose la question. Et vous ? Est-ce que vous voulez vous en aller ? Où est-ce que vous allez croire en moi, croire en ce que j'ai fait pour vous? Dieu vous dit ce matin, je vous aime. Je suis le créateur de toutes choses. J'ai tout pouvoir. Vous ne pouvez pas venir dans ma présence, mais parce que je vous aime tellement, j'ai trouvé une solution. Mon fils. Mon fils, il va venir sur la terre, il va donner sa vie pour vous, il va donner tout son être entier, il va accepter de souffrir, il va accepter de mourir pour vous, pour que vous puissiez à nouveau vous réjouir dans ma présence, pour que vous puissiez à nouveau venir avec moi. Dieu, le créateur de toutes choses, est un Dieu d'amour. Et dans son immense amour, il est venu vers nous. Je me répète, mais c'est là tout le message de l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et ce message, il est toujours pertinent aujourd'hui. Il choque autant qu'il le faisait du temps de Jésus. Certains l'ont entendu et sont venus à lui, et d'autres non, et sont repartis. Certains ont choisi de le suivre, d'autres ont refusé et préféré murmurer et partir. Et dans un monde aujourd'hui en proie au désespoir, où les peuples sont en quête de sens, de solutions pour leur avenir, où beaucoup fuient la réalité en s'enfermant dans des plaisirs éphémères, où d'autres cherchent à prolonger les jours de leur vie ou à se cryogéniser, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire de cette jeune fille anglaise qui, parce qu'elle était condamnée à cause de la maladie, a demandé à ce qu'on la congèle, qu'on la cryogénise, en espérant que dans un futur, on arrive à la ranimer et à la guérir. Il y a un désespoir dans le cœur des gens. Et Jésus, il est là pour leur dire, je suis le pain de vie. Je peux satisfaire tout votre être entier. Je peux vous donner une espérance. Je peux vous réconcilier avec Dieu le Créateur. Je peux vous sauver de la mort et en échange, vous donner la vie éternelle. Je peux vous délivrer du poids de vos fautes. Peut-être que vous culpabilisez ce matin pour des choses que vous avez faites, mais je peux vous libérer de ça. Je peux ôter ce fardeau qu'il y a sur vos épaules. Je peux vous rendre heureux. Je peux changer vos vies. Je peux changer vos larmes en cris de joie. Je peux guérir vos cœurs blessés. Je peux vous révéler l'amour de Dieu. Je veux vivre avec vous. Je veux vous aimer chaque jour. Et même si vous devez partir, vous allez être avec moi pour l'éternité. Vous allez vivre avec moi pour l'éternité. Vous n'avez rien à payer pour venir à lui, rien à devoir, si ce n'est de croire en son amour. C'est ce que Jésus enseignait aux foules. Et Jésus est là ce matin. Jésus, il vous ouvre les bras. C'est aujourd'hui le jour pour vous de venir à lui, d'ouvrir les yeux et de réaliser son existence, son amour. Et j'ai envie de dire aussi, au-delà des miracles et des signes dont le Seigneur a dit qu'il accompagnerait ceux qui auront cru, frères et sœurs, gardons à l'esprit qu'ils sont d'abord là pour amener à Jésus. Ils manifestent l'amour du Père, ça c'est une certitude, et ils rendent aussi témoignage au Fils. C'est Jésus qui sauve et qui donne la vie éternelle. Les signes et les prodiges ne sont pas une fin en soi. Et Jésus nous le rappelle dans ce passage, du moins c'est ce que j'ai compris. Les milliers de personnes qui ont été nourries avec les 5 pains et les 2 poissons, le lendemain, ont encore eu faim. Mais certains ont goûté au pain de vie. Ils ont accueilli Jésus dans leur vie. Et ceux-là, ils ont été rassasiés en Jésus. Ceux-là, leur vie a été transformée. Je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Quand on prie pour la guérison, c'est quoi le plus important? C'est que la personne qui, pour nous, pour qui on prie soit guérie, ou qu'elle soit sauvée. Je provoque exprès. Bien sûr, les deux. Les deux. J'aspire à avoir des guérisons, à avoir des miracles. Dieu sera glorifié et la personne sera bénie. Elle va repartir guérie. Mais je préfère que la personne soit sauvée. Je préfère que la personne rencontre Jésus. Voilà, donc si vous pensez qu'aujourd'hui, vous êtes comme certains de ces Juifs, vous vous contentez de ce que Dieu fait au jour le jour dans vos vies, vous êtes dans l'attente, mais peut-être que c'est le moment aussi ce matin de passer à une étape supérieure, en décidant de le suivre, de ne pas repartir de murmurer, mais de le suivre et de marcher à sa suite. C'est beaucoup plus que de s'attendre à ce que Dieu va faire, c'est faire partie de l'aventure, c'est prendre part à l'épanouissement de son royaume, de Dieu sur la terre. C'est vivre avec Jésus chaque jour, à chaque instant, c'est lui parler, c'est l'écouter, c'est lui faire confiance, c'est vous reposer en lui, c'est relever des défis avec lui. Jésus vous dit ce matin, ne repartez pas après que vous ayez vu juste un signe, mais marchez à ma suite, venez avec moi. Nadia, Eugène et Nairi ont rencontré ce Jésus et ils ont accepté son message. Leur vie n'est plus la même. Le sens de leur vie n'est plus le même. Et aujourd'hui, au travers du baptême, ils vont témoigner publiquement qu'ils croient en Jésus, qu'ils croient à son sacrifice pour eux, qu'ils ont décidé de marcher à la suite de Jésus. Et tout à l'heure, on va les plonger dans l'eau, et on va les en ressortir, et ça va symboliser leur mort et leur résurrection en Jésus. Ça va symboliquement représenter ce que Jésus a fait dans leur vie. Ce que Jésus a fait dans leur vie, il peut aussi le faire dans la vôtre. Et j'aimerais vous dire ce matin, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Jésus vous ouvre grand ses bras. Ça peut paraître une folie, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et ce n'est pas demain qu'il faudra prendre la décision, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu veut vous rencontrer. C'est aujourd'hui que Dieu veut vous montrer Jésus, vous montrer son amour. Je vous invite à vous lever et on va prier ensemble. Je vous invite à faire